VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi, Dorsil et Nathalie Barge, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du lundi 21 novembre 2016. Au sommaire ce soir.
Au Mali, 5 soldats tués dans une embuscade le jour des élections locales près de Douenza.
L'église rwandaise demande pardon pour les chrétiens impliqués dans le génocide.
27 morts, tel est le bilan partiel d'un attentat contre une mosquée en Afghanistan attribué au groupe État islamique.
Primaire de la droite française, Sarkozy, sorti dès le premier tour.
Élection en Haïti, les premières tendances nettement favorables à Jovenel Moïse, mais pas de résultat officiel définitif avant plusieurs semaines.
Le sport et l'économie juste après le journal.
L'armée malienne a perdu 5 hommes dans une embuscade dans la zone de Douenza. Plusieurs autres actions ont été menées par les groupes djihadistes et bandits armés dans les régions de Mopti, Koulikoro et Tombouctou, même dans une partie de Ségou, affectant les matériels électoraux du cercle de Massina. Le point avec Kassim Traoré.
L'élection communale du dimanche 20 novembre s'est déroulée dans l'insécurité totale au nord et au centre du Mali. Les bandits armés avaient mis en garde toute personne qui participerait à l'élection communale. Des retours de Tombouctou, où ils avaient participé à la sécurisation du scrutin, 5 soldats maliens ont été tués. L'attaque s'est déroulée entre Bamara Maoudé et Douanza dans la région de Mopti. Un peu plus tôt, des éléments de l'armée malienne sont tombés dans une embuscade à Inadjatafan, à 200 km de Gourmararous. Plusieurs personnes contactées disent que les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA étaient hostiles à l'organisation du scrutin avant la mise en place des autorités intérimaires. Ces combattants ont pris part à l'embuscade tendue aux militaires maliens dans la zone de Bamara Maoudé. Dans la même nuit du dimanche à lundi, des djihadistes ont investi et même contrôlé la localité de Dili dans le cercle de Nara. Selon le maire de Dili, les assaillants n'ont tué personne, mais ils sont partis avec une ambulance et la voiture du sous-préfet de la localité. Une localité qui n'est pas loin de la frontière entre le Mali et la Mauritanie, au nord de la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, les magistrats en grève sèche depuis environ un mois viennent de suspendre leur mouvement pour un mois. La décision a été prise ce matin en Assemblée générale. Pour Alarakete Sanengar, le président du syndicat des magistrats du Tchad, cette suspension vise à donner au chef de l'État du temps pour examiner leurs doléances.
Dans nos démarches, nous avions rencontré il y a quelques jours le chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été très réceptif à nos problèmes et il a promis de les examiner avec sérénité pour les donner suite dans les meilleurs délais. Mais il nous demande en attendant de reprendre le service s'il y a lieu pour lui permettre d'examiner la chose normalement. On a suspendu le mouvement pour un mois. Le mot d'ordre qui est donné, le magistrat avait cessé de travailler, c'était pour protester contre un décret qui avait abattu les indemnités des gens à hauteur de 80%. Ça visait les membres des grandes institutions et les gens que, communément, on les appelle les décrétés. Mais dans les applications, les gens avaient voulu étendre ce décret-là à tout le monde. Ils l'ont même étendu à tout le monde. Et c'est un décret qui n'était pas pris dans les normes. Donc c'était d'abord un décret illégal. Donc nous avions protesté d'abord contre ce décret-là. Et nous, magistrats, nous avons un statut particulier. C'est ça ce que les gens devraient prendre aussi en compte.
Alara Kété Sanengar, le président du syndicat des magistrats du Tchad.
Au moins 4 personnes ont été tuées et 13 autres blessées ce lundi dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital de Benghazi en Libye. Le point avec Nani Talani.
L'explosion a eu lieu devant l'hôpital Adjala dans le centre de Benghazi et ce bilan pourrait être révisé à la hausse. Un officier des forces spéciales, Mohamed Al-Jali, a ajouté que pour le moment, il n'est pas clair s'il s'agit d'une voiture piégée ou d'un attentat suicide. Benghazi est devenu le fief de plusieurs groupes djihadistes. Depuis plus de 2 ans, la ville est le théâtre de combats quotidiens entre les forces du général controversé Khalifa Haftar et des milices islamistes. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Il a été renversé et assassiné après une rébellion soutenue par une intervention militaire de la France, la Grande-Bretagne et des États-Unis.
L'UNESCO a condamné ce lundi l'assassinat du journaliste Marcel Loubala de la télévision publique congolaise par des hommes armés dans le centre de la RDC. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la directrice générale Irina Bokova a déclaré compter sur les autorités pour que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. Monsieur Loubala a été abattu dans la nuit du 14 au 15 novembre à Mbujimayi, capitale du Kasaï oriental.
Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne au Mozambique a été revu à la hausse, passant de 73 à 80 morts selon une source hospitalière. 35 personnes sont toujours dans un état grave. L'explosion a eu lieu jeudi en zone rurale au moment où des centaines de personnes tentaient de récupérer du combustible d'un camion-citerne accidenté et abandonné la veille. Le camion, dont le chauffeur est introuvable, transportait 30 000 litres d'essence vers le Malawi.
Le nombre de malades du sida sous traitement antirétroviraux a doublé en 5 ans pour atteindre 12 200 000 personnes, soit la moitié des personnes qui vivent avec le VIH selon l'ONU-SIDA. Si ces efforts sont poursuivis, l'objectif de 30 millions de personnes sous traitement d'ici à 2020 pourra être atteint, a déclaré l'organisation à Windhoek en Namibie.
L'Église catholique rwandaise a une nouvelle fois demandé pardon pour les chrétiens impliqués dans le génocide de 1994, selon le président de la commission épiscopale du pays. Une lettre d'excuse a été lue dimanche dans toutes les églises du Rwanda à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. L'Église avait déjà formulé de telles excuses en 2000. Plusieurs religieux catholiques ont été jugés pour participation au génocide.
28 braconniers ont été arrêtés de nuit au Kenya grâce à des caméras thermiques utilisées principalement dans la réserve du Masai Mara, a annoncé le Fonds mondial pour la nature. Cette nouvelle technologie a été mise à la disposition d'une unité mobile de gardiens armés chargée de traquer les braconniers chassant des éléphants, rhinocéros ou pangolins. Ces 10 dernières années, 110 000 pachydermes africains ont été tués victimes du trafic, soit un quart de leur population actuelle.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, un attentat suicide a visé aujourd'hui une mosquée chiite de Kaboul. Cette communauté était en pleine célébration d'une importante fête religieuse marquant le 40e jour suivant l'Achoura. Au moins 27 personnes ont été tuées. Eric Manirakiza nous en dit plus.
C'est la troisième attaque contre les chiites dans Kaboul depuis le 23 juillet. Le kamikaze a déclenché sa charge au milieu des fidèles dans la mosquée. Un témoin, Nadir Ali, sur son lit d'hôpital, se rappelle de l'explosion et la poussière qui a entièrement recouvert la mosquée. Les premières images montrent des locaux dévastés et des débris dans des mares de sang. Cet attentat non encore revendiqué porte la marque du groupe État islamique. Celui-ci avait revendiqué précédemment un double attentat suicide ciblant cette minorité religieuse qui avait fait 85 morts. Dans un communiqué, le président Ashraf Ghani a condamné l'attaque qu'il a qualifiée de barbare. Il a aussi dénoncé des tentatives de division de la population afghane. En revanche, un habitant a reproché aux autorités d'être incapables d'assurer la protection des fidèles chiites, des mosquées, des pèlerins et le rassemblement.
Près d'un million de Syriens sont aujourd'hui assiégés par les belligérants en Syrie, a indiqué aujourd'hui le patron des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien. S'adressant au Conseil de sécurité, il a constaté une augmentation massive depuis un an de l'utilisation de cette tactique cruelle, ses propres termes, en particulier par le gouvernement syrien. L'ambassadeur britannique Matthew Rycroft a qualifié de son côté de barbare la campagne de bombardement menée par Moscou et Damas.
L'ambassadrice américaine Samantha Power a mentionné ce lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU les noms d'une douzaine de généraux et colonels syriens accusés d'avoir ordonné d'attaquer des cibles civiles ou de torturer des opposants. Ils doivent savoir que leurs exactions sont documentées et qu'un jour ils devront rendre des comptes, a-t-elle affirmé.
Toujours dans l'actualité internationale, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté les pays occidentaux à soutenir la lutte d'Ankara contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, accusant les Européens de laisser les rebelles kurdes agir librement sur leur territoire. Monsieur Erdogan, qui s'exprimait lors d'une réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Istanbul, a indiqué qu'il attendait un soutien des pays de l'Alliance contre toutes les organisations terroristes, à commencer par le groupe État islamique et le PKK.
Des millions de musulmans chiites ont afflué ce 21 novembre dans la ville sainte irakienne de Karbala, placée sous haute sécurité par crainte d'attaques djihadistes. Pour commémorer la fin des 40 jours de deuil de la mort de l'imam Hussein, des pèlerins de tout l'Irak ont marché en direction de la cité sainte où se trouve le mausolée de ce petit-fils du prophète Mahomet, assassiné en 680. L'événement s'est jusqu'à présent bien déroulé.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump pourrait désigner des personnalités plus consensuelles pour de nouveaux postes clés de son administration après une série de nominations ayant suscité beaucoup de critiques la semaine dernière. Par exemple, Steve Bannon au poste de stratège en chef et haut conseiller et Jeff Sessions comme ministre de la Justice. Les deux sont accusés d'avoir tenu des propos racistes par le passé. La presse fait des spéculations sur le prochain patron du département d'État, mais selon les proches de M. Trump, aucune annonce officielle n'est attendue dans l'immédiat.
Et en France, les primaires de la droite ont signé le départ définitif de Nicolas Sarkozy de la scène politique. Les finalistes François Fillon et Alain Juppé défendent tous les deux l'austérité et le contrôle de l'immigration, mais se distinguent sur le degré de libéralisme économique, la politique étrangère et les questions de société, dont la laïcité.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Et un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est ce soir avec Morgane Guiriec.
La Côte d'Ivoire veut sauver la société ivoirienne de raffinage. D'après le site jeuneafrique.com, l'État ivoirien prépare une levée de fonds de 360 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Le gouvernement veut ainsi apurer la dette cumulée par la cire auprès de fournisseurs de brut. Le FMI a déjà donné son accord. Le Nigeria s'enfonce dans la crise économique. Tombé en récession au deuxième trimestre, le géant pétrolier connaît une contraction de son PIB de 2,24% au troisième trimestre. Ces chiffres émanent du Bureau national des statistiques, cité par l'agence France-Presse. La production de pétrole est passée de 2,17 millions de barils par jour en 2015 à 1,63 millions de barils. Et enfin, l'Éthiopie et le Maroc ont signé un accord de construction d'un complexe de production d'engrais. L'entreprise publique marocaine OCP SA entend investir plus de 2 milliards d'euros sur 5 ans en Éthiopie. Le complexe devrait permettre à l'Éthiopie de produire 80% de ses engrais en 2022 et être autosuffisante dès 2025.
Nous passons à l'actualité sportive avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Suite de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aucun pays africain n'accède au quart de finale.
Un deuxième point décroché par les Ghanéennes dans la compétition après un nouveau match nul concédé contre les Américaines, un but partout, mais les Ghanéennes terminent dernière de leur groupe. Hier dans le groupe B, l'Espagne a été battue par le Nigeria de buts à 1, insuffisant néanmoins pour se qualifier pour les quarts de finale à cause d'une moins bonne différence de but pour les Nigérianes qui disent adieu à la compétition.
Parlant de la CAN féminine 2016, le Cameroun espère confirmer son bon début de compétition.
Après sa victoire en ouverture de la CAN contre les Égyptiennes, les Camerounaises affronteront l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe, lui, fera face à l'Égypte. Hier, le Nigeria a puni sévèrement les Maliennes, victoire 6-0. Le Ghana a quant à lui battu le Kenya, 3 buts à 1.
Messi guéri reprend l'entraînement avec le FC Barcelone, Nicolas.
L'Argentin a repris l'entraînement après avoir manqué le match contre Malaga en raison de nausées. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter le club catalan. Messi devrait récupérer... Le Barça devrait récupérer l'attaquant face au Celtic Glasgow. Ce sera mercredi en Ligue des Champions. On rappelle que le FC Barcelone, en tête du groupe C avec 9 points, sera qualifié s'il gagne au Celtic Park ou bien s'il fait match nul et si Manchester City ne s'incline pas contre le Borussia Mönchengladbach.
Et en basket, la NBA, championnat de basket nord-américain, les derniers résultats.
Malgré les 31 points de Russell Westbrook, Oklahoma City a chuté à domicile face à Indiana 115 à 111, tandis que les Lakers de Los Angeles ont craqué à nouveau dans le final, défaite 110-118 face à Chicago. Toronto traverse aussi une passe difficile. Défaite 99 à 102 face à Sacramento. Enfin, les Knicks de New York sans Joakim Noah malade ont infligé une deuxième défaite consécutive aux Hawks d'Atlanta, 94 à 104.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault que l'on retrouve à 19h temps universel dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Nathalie Barge et Gaby Dorsil, place au dossier du jour, première escale, Ouagadougou.
Les remous sociaux sont loin de s'estomper au Burkina Faso où après les mouvements des journalistes, de médias publics et des enseignants, c'est le corps de la santé qui entre en grève. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale débraye demain pour exiger le respect de la mise en application de sa plateforme revendicative. Les détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
L'amélioration des conditions de vie et de travail, les carrières, les indemnités et le dossier de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG, la revalorisation de la fonction soignante, les agressions multiples que subissent les agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions, autant de points contenus dans la plateforme revendicative du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA. Le syndicat dénonce un mépris du gouvernement à l'issue d'une première grève infructueuse voici un mois déjà et annonce cette fois une grève totale sans service minimum durant 72 heures dès demain mardi. Pichiamba Ouedraogo est le secrétaire général de SINCHA.
Nous avons, à la précédente grève, voulu montrer aux populations et au gouvernement, et surtout aux populations, que notre grève n'est pas dirigée contre elle. Et nous avons pour cela œuvré à organiser le service minimum. Et nous avons choisi, à notre corps défendant, un mot d'ordre de grève totale dans l'optique que le gouvernement puisse effectivement se pencher assez rapidement sur nos revendications. Nous savons que même lorsque nous travaillons, il y a beaucoup de désagréments. On sait bien que notre activité est socialement utile. Mais apparemment, nous, on pense que le gouvernement n'y croit pas. C'est pourquoi il n'a pas écouté à la première grève. Et les travailleurs, avec le syndicat, nous avons donc choisi cette forme-là pour effectivement nous faire entendre. D'abord, notre plateforme n'est pas satisfaite. Et deuxièmement, nous, on pense qu'elle n'est pas satisfaite parce que le gouvernement nous méprise. Il n'y a pas de sérieux lorsqu'il discute avec nous. Nous avons déposé la plateforme revendicative le 18 avril 2016. La première rencontre a eu lieu le 26 avril. Depuis, plus rien. Jusqu'à ce qu'on dépose la plateforme le 12 octobre 2016 pour avoir une rencontre le 18 octobre. Vous voyez, le gouvernement s'en fout de nous. C'est pourquoi les travailleurs ont estimé qu'il était de leur devoir de ne pas permettre qu'on abandonne le système de santé et les travailleurs de la santé de cette façon.
Un arrêt total du travail dans toutes les formations sanitaires du pays donc, et une marche de soutien prévue mercredi selon le syndicat afin de contraindre le gouvernement à examiner avec plus de sérieux leurs revendications. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Haïti, les électeurs se sont rendus aux urnes le dimanche 20 novembre pour choisir un président de la République, 25 députés sur 109 et 16 sénateurs sur 30, après une transition qui aura duré près d'un an, dirigée par Joslerm Privert. Parmi les 27 candidats qui briguaient la présidence, Jovenel Moïse, soutenu par l'ex-président Michel Martelly, se détache nettement, suivi de Jude Célestin, arrivé deuxième lors des élections d'octobre 2015 également, élection annulée pour accusation de fraude massive. La sécurité reste renforcée à Port-au-Prince, la capitale, notamment suite à un incendie qui a détruit un marché public, ainsi que des menaces de violence de la part des partisans de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Mais quant au scrutin de dimanche, il s'est bien déroulé, nous dit le journaliste Guito Saint-Fleur de Radio Horizon 2000.
Eh bien, la journée électorale en Haïti s'est très bien déroulée, disons sans incident majeur. Et la perfection, vous le savez déjà, ça n'existe pas, mais dans l'ensemble, on a eu de très bonnes élections. En témoignent les partis politiques les plus influents et les gens là qui avaient fait le déplacement pour voter. Certainement, des gens ont fait le déplacement, et un petit peu contraire aux activités de campagne. Quand c'est la période des campagnes, il y a beaucoup de gens dans les rues. Mais là, timidement, parce que c'était un dimanche, les gens, dans un premier temps, s'étaient rendus à l'église. Ensuite, ont timidement regagné les bureaux de vote respectifs pour remplir leurs devoirs de citoyens. Donc, en gros, ça a été pas mal.
Les responsables électoraux ont-ils publié un taux de participation?
Non, jusqu'à présent, non. On n'a pas encore donné de chiffres. On n'a pas encore mentionné le taux de participation.
Dans l'ensemble, la journée électorale s'est bien passée. Qu'en est-il maintenant du dépouillement?
Pour l'instant, l'instant, il y a quand même des sorties favorables à l'endroit du candidat du parti PHTK.
Quand vous dites PHTK, vous faites référence au parti de l'ex-président Michel Martelly.
Je fais référence au parti de Michel Martelly avec le candidat Jovenel Moïse.
Donc les tendances, les premières tendances lui sont favorables apparemment.
Justement, les premières tendances sont nettement favorables au candidat Jovenel Moïse. Ce ne sont pas les résultats officiels, mais là, on peut quand même essayer d'avoir une certaine idée. Parce que, bon, hier, beaucoup de gens ont eu la chance d'écouter en direct sur certaines ondes de stations de radio des résultats qui se sont tournés en faveur du candidat du PHTK.
Est-ce que vous faites allusion aux procès-verbaux affichés dans les différents bureaux?
J'ai fait allusion aux procès-verbaux, mais là, selon ce qu'on a pu remarquer, le candidat a une longueur d'avance considérable, le candidat du parti PHTK.
Quand les résultats préliminaires seront-ils publiés?
Le conseil électoral provisoire a donné une conférence de presse hier soir. Il a laissé croire que les premiers résultats seront connus d'ici le 29 novembre. Si l'un des candidats obtient la majorité des voix, 50+1, donc cette personne-là est automatiquement élue dès le premier tour. Mais si aucun candidat, ou bien les deux candidats qui arrivent en premier n'arrivent pas à obtenir 50+1, il va y avoir un second tour entre ces deux candidats.
Et ce second tour est prévu quand?
Janvier.
Comment Port-au-Prince s'est-il réveillé aujourd'hui? Comment voyez-vous l'humeur de la population après cette journée électorale?
Bon, après cette journée électorale, les rues sont vraiment calmes. Bon, presque la majorité des écoles ne fonctionnent pas, mais c'est pas à partir d'un communiqué de presse. Les écoles devraient réouvrir leurs portes, mais certaines gens, certains parents estiment qu'il est pas du tout prudent parce qu'on connaît l'histoire en Haïti après les élections.
Merci, Guito Saint-Fleur.
Merci, c'était vraiment un plaisir d'intervenir au nom de Radio Horizon 2000.
Guito Saint-Fleur, journaliste et directeur des programmes à Radio Horizon 2000, Port-au-Prince.
Dans Washington Forum ce jeudi, Tatiana Mosso avec vous. Retour sur la COP22 à Marrakech après deux semaines de discussions. Un sommet marqué par l'incertitude suite à l'élection aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. Quelle avancée dans l'application de l'accord de Paris? Quel bilan pour le continent africain, notamment les partis des Verts? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités. Dimanche, les Français ont voté à l'occasion de la primaire de la droite. Deux anciens ministres s'affronteront au deuxième tour, François Fillon et Alain Juppé. Pour analyser les résultats de ce premier tour, Tatiana Mosso a joint Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro.
C'était une surprise par l'ampleur du résultat. Puisque personne n'avait prévu qu'il fasse un peu plus de 44%. On avait senti qu'il y avait une dynamique Fillon dans les derniers jours, donc on n'avait pas senti que ce serait à ce point-là. On avait vu que depuis le premier débat de la primaire, donc à partir de mi-octobre, il se passait quelque chose. On a vu qu'au cours de ces débats-là, les Français se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment intéressés par François Fillon. Il y a eu différentes émissions politiques qui lui ont permis de se révéler, et au fur et à mesure, la dynamique Fillon a pris, les meetings ont été de plus en plus pleins, et donc c'est vraiment l'effet des débats qui m'ont permis de percer.
Quid de Nicolas Sarkozy, du coup?
Sur le moment, ça n'a pas été perçu autant qu'il y avait un essoufflement. On a plutôt eu l'impression que la dynamique de François Fillon était plutôt gênante pour Alain Juppé. Donc on a eu l'impression qu'il y avait un système de vases communicants qui était vraiment entre François Fillon et Alain Juppé. Et la surprise de dimanche soir est aussi sur Nicolas Sarkozy. Personne n'avait vu qu'il serait éliminé dès le premier tour.
Alors justement, Fillon et Juppé semblent d'accord sur quelques points. Un État plus fort et une immigration contrôlée, par exemple, mais pas forcément sur la politique étrangère. Rapidement, à quoi on peut s'attendre comme duel entre les deux hommes?
Ils sont assez différents sur le dossier de la Russie, c'est-à-dire que François Fillon est un allié et un ami de la Russie. Ils avaient une petite passe d'armes sur cette thématique-là. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des petites piques là-dessus. Et puis, il y a aussi des grosses différences sur le volet économique. C'est là-dessus, à mon avis, que ce sera plutôt assez présent jeudi soir.
Alors, un pronostic pour le deuxième tour. Est-ce que, finalement, la balance penchera plutôt du côté de Fillon, vu les résultats de ces dernières semaines et de ces derniers mois?
C'est un pronostic, à mon avis, assez facile de dire que c'est François Fillon qui va l'emporter haut la main. C'est très, très difficile pour Alain Juppé d'y parvenir. Il a peu de soutien, il a peu de réserve de voix.
Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro en France.
Pour les catholiques, l'année sainte du jubilé centrée autour de la miséricorde a pris fin hier. Le pape François a publié aujourd'hui une lettre apostolique où il précise que cette miséricorde ne peut pas être une parenthèse dans la vie de l'Église et il donne désormais à tous les prêtres la possibilité d'absoudre l'avortement, même si cela reste dans le catholicisme un péché grave. Claire Morin-Gibourg a joint au Vatican le père Marie-Janvier Yameogo qui revient de ce jubilé de la miséricorde.
On peut dire que la miséricorde fait partie des thèmes clés du pontificat du pape François. Dès sa première année, il n'a cessé de parler de la miséricorde. Vous vous rappelez, il a comparé l'Église non pas à une douane, mais à un hôpital de campagne. Lors d'une homélie, c'était en mai 2013, où il disait « les Églises doivent garder les portes ouvertes pour accueillir tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu ». Et c'est dans ce cadre-là qu'est venue l'annonce de l'année de la miséricorde, où le pape invite toute l'Église à se pencher sur les blessures de notre monde. Donc c'est un thème qui est récurrent. Nous avons affaire à un monde blessé. Et il compare même l'Église à un hôpital de campagne après une guerre, où on n'a pas le temps de demander beaucoup de précisions. Mais il faut soigner les blessures, c'est urgent. Et à la fin de cette année de la miséricorde, le pape a des expressions fortes en disant que les portes se ferment pour l'année dans les églises, mais nos cœurs doivent rester ouverts et nous devons devenir des disciples de la miséricorde.
Le pape François s'est aussi félicité de l'expérience donnée par ce jubilé et il a notamment étendu à tous les prêtres la faculté d'absoudre le péché d'avortement. Est-ce que vous avez été étonné de cette mesure ?
Non, pas du tout, pas du tout. Le pape, il insiste sur l'ouverture que nous devons avoir. Et il appelle à approfondir vraiment le sens de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Je ne veux pas aller dans la polémique pour dire que, en fait, ce n'est pas minimiser la gravité de ce péché qu'est l'avortement, mais c'est montrer la possibilité de clémence. Et il dit, ben, l'avortement est un péché grave parce qu'il met fin à une vie innocente. Mais il dit aussi que ces femmes ont aussi sont des femmes blessées, des êtres blessés, qui doivent rencontrer le regard aimant de Jésus, qui veut les pardonner si, bien sûr, elles ont le cœur contrit et elles demandent à être réconciliées avec Dieu le Père. Vraiment, c'est pour, disons, démocratiser la miséricorde pour lutter contre ce qu'il appelle l'indifférence.
Le père burkinabé Janvier Yameogo, chargé du secteur francophone et du continent africain au Conseil pontifical des communications sociales du Vatican.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
La fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. À la console, c'était Wagner Robert. À la présentation, Nathalie Barger, Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vos chers auditeurs. Merci également à nos plus de 2 millions de fans sur Facebook. On maintient la conversation. Continuez à nous envoyer vos commentaires et questions pour nos émissions interactives. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.